fait, d'habitude, j'ai jamais grand-chose à dire tout seul. Mais ce matin, encore moins que d'habitude, je crois. Le rhume aidant, je suis encore plus silencieux. C'est comme on dit, écoutez, ça vient que je me tais tout le temps. Non, en fait, surtout, je préfère répondre aux questions, essayer d'aller plus loin. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir, enfin, d'aller voir avec vous. Mais qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas réalisé qu'il n'y avait pas d'individus séparés? Comment ça se fait que ça n'a pas encore lieu, ce truc-là? Comment ça se fait que vous n'avez pas encore perdu la croyance en un moi? Parce qu'on a dans l'idée qu'il faut des années de recherche, que ça prend du temps, que je ne sais pas quoi. Et si c'était pas vrai? Et si ça pouvait se passer maintenant?
Je sais pas du tout ce qui va sortir, ni comment, mais que ça, c'est pas facile. quand tu dis ça, j'ai la perception en fait en début novembre, il y a vraiment y a quelque chose qui visiblement, je sais pas, c'est vu et ça a libéré une grande part de disponibilité, c'est-à-dire que c'est comme s'il y avait tout un pan de culpabilité qui était tombé. Et en fait, ça, c'est plus là. Ça a pas duré, ça a duré à peu près un mois et demi, et là j'ai reperdu ça, et c'est très dur parce que du coup, il y avait quelque chose qui était très ouvert, les choses paraissaient claires, il y avait de la paix, il y avait une relation aux autres qui était complètement différente. Il n'y avait plus peur. Et je ne sais pas comment du coup, ça a ouvert tout un champ possible.
Tu sais ni comment c'est venu, ni comment c'est parti.
Voilà.
Mais c'est venu et c'est parti.
Et
la culpabilité est revenue aussi?
Bah oui.
Mais est-ce qu'au moins maintenant tu sais qu'elle est fallacieuse?
Oui, un peu.
Un peu?
Un peu, parce que quand je suis fatiguée, en tout cas j'ai un épuisement aussi, je suis épuisée. Je pense que je donne beaucoup d'énergie à je sais pas quoi, et qui me consomme beaucoup. Mais c'est pas tout de suite vu. C'est pas tout de suite, ça dépend des moments.
C'est-à-dire ça croit encore à la culpabilité quand elle apparaît?
Ben, c'est-à-dire que ça met un temps, c'est-à-dire qu'il y a des pensées qui viennent, puis qui reviennent, puis disent « Ah bah tiens, c'est ça qui m'a amené à... » Et je dis « Ben non, là, c'est faux. » Et puis en fait, ça revient tout de suite, ça s'arrête pas. C'est comme la sensation qu'il y a une habitude.
Oui, c'est ça, exact.
Il y a une habitude, il y a un conditionnement qui existe comme ça depuis des années, donc je ne sais pas m'en défaire.
Qu'est-ce qui s'est passé en novembre, tu sais?
J'étais auprès de Chandra Swami, et c'était le jour de mon départ. Et je lui posais une question, et en fait, j'ai relu la réponse ce matin. Je ne sais pas si c'est la réponse. Dans la réponse, je ne revis pas la même chose. C'était vraiment ce qui s'est vécu là.
Ouais, c'est toujours un instant, c'est une phrase, un instant, ça te se tu ne sais pas pourquoi, puis après tu la lis, ça ne te fait rien. Ouais. Et c'était quoi la question?
Je ne sais plus, je ne sais plus trop. Enfin, si, c'était... Justement, c'était tout à fait ce qui se disait hier. C'était le fait d'arrêter. Enfin, je lui disais, en fait, c'est tellement difficile. L'objectif d'éveil me paraissait tellement impossible que je dis, en fait, ce qu'il faut, c'est arrêter de. Est-ce qu'il faut juste que j'arrête de chercher? Puis je lui disais, avec mes mots à moi, c'était mettre ma main dans la main de Dieu et puis juste continuer à avancer comme ça. Et en fait, j'ai vraiment senti qu'effectivement, tout d'un coup, quand cette obligation, cette tension d'être obligé d'aller vers et de ne pas y être capable et tout ça, ça s'est tombé. Et qu'est-ce que ça fait du bien? C'était léger, c'était... C'était vraiment quelque chose de... Et ça... Et du coup, le, après, je me suis cassé une côte dans l'avion, c'était pas grave. Il y avait, il y a eu, après, j'ai un changement de choses, j'avais en plus beaucoup d'énergie disponible pour les autres, pour le moment. Je voyais les choses claires.
Et toi, oui.
Et c'est reperdu.
Non, ce n'est pas reperdu.
Non, ce n'est pas reperdu.
C'est-à-dire que il s'est passé quelque chose de spécial à ce moment-là. Tu vois. Il y a eu un arrêt de la recherche à un moment donné. Et cet arrêt de la recherche, à un moment donné, crée une détente. Et cette détente fait que il y a une perception, une expérience, du coup, de libération, on va dire ça comme ça. Hein. Tout d'un coup, je suis plus libre, j'ai plus d'énergie, il y a des choses qui tombent, etc. Mais ce n'est qu'une expérience à ce moment-là. Parce qu'à ce moment-là, c'est juste la détente liée à l'arrêt de la recherche pendant un temps. Ce n'est pas la réalisation définitive qu'il n'y a pas de moi. Tu vois ? C'est un peu comme si tu disais, ouais, jusqu'à maintenant j'ai cherché, maintenant je vais arrêter de chercher. Tu vois ? Dans les deux cas, il y a un jeu. Tu sens la différence entre je cherche, j'arrête de chercher et il n'y a pas de moi. Il n'y a pas de jeu.
Oui, mais je crois que à ce moment-là, il y a toujours un jeu de même impression.
Oui.
De toute façon, j'ai pas eu l'impression que c'était la.
C'est pour ça que ça n'a pas duré.
Voilà. Et même d'ailleurs, quand je racontais aux gens, je disais que c'était provisoire, quoi. Je sentais que ça n'allait pas durer. Mais c'est douloureux. Parce qu'après, c'est-à-dire que.
Du coup, la tension de la recherche est encore plus forte. Maintenant, je le veux vraiment.
Mais non, justement, c'est ça. Je pense qu'en fait, d'ailleurs, je me rappelle ma question. Ce que je disais, c'est que je prenais conscience que ma demande n'était pas sincère. Ma recherche n'était pas sincère. Qu'en fait, je m'en fous de l'éveil. C'est pas ça que je cherche. C'est juste d'être tranquille et de d'avoir que des choses agréables, en fait.
Ça n'arrivera jamais.
Ben oui, je sais. Et par contre, c'est vrai que en revenant, d'habitude, je n'arrive jamais à méditer chez moi, et en revenant, ça se faisait tout seul. Et voilà, et ça s'est reperdu, en fait, c'était encore à nouveau près de lui, parce que je suis retournée près de lui à l'heure, et ça s'est reperdu là.
Quand tu es retourné vers lui ?
Oui. Donc
ça c'est intéressant alors.
Mais oui, donc je pense que j'ai quelque chose qui n'était pas ajusté. Et c'est là que la culpabilité est revenue. En me disant, est-ce que c'était juste que j'y aille, est-ce que j'ai pas joué. Voilà, et le petit moteur qui s'est remis en route. Donc. Et je vois bien que c'est le moteur qui s'est remis en route. Mais.
Le moteur n'a jamais été réellement coupé, en fait. Le moteur, je crois en moi, ne s'est jamais arrêté. Il y a eu relâchement pendant un temps. Mais si tu n'es pas intéressé par l'éveil, moi je peux rien pour toi. Pas intéressé par l'éveil, seulement par les conséquences de l'éveil.
Voilà.
Ça marche pas comme ça.
Et d'ailleurs, hier, comme j'ai entendu là quand tu. Pour moi, effectivement, dans mon image de ce qu'était l'éveil aussi, il n'y avait plus toutes les réactions, tous les conditionnements et tout ça. Ah, c'est. C'est d'entendre hier que c'est un petit bout de truc, après, il faut continuer.
Il y a un sage hindou dont malheureusement j'oublie toujours le nom qui a dit avant l'éveil on est sur la voie vers la voie, après l'éveil on est sur la voie. Ça veut clairement dire ce que ça dit. C'est pas fini, mais tout le monde le dit maintenant, de plus en plus de gens le disent, c'est un commencement, c'est pas une fin. Le premier qui l'a dit, c'est Ashanti, je pense, qui l'a dit clairement, parce que Ramana l'avait dit en parlant du bateau qui continue sur son air, c'était déjà ça qu'il disait. Mais qui a dit clairement c'est un commencement pas une fin, c'est Ashanti, je pense qu'il a dit le premier, il y en a d'autres. Et puis ça se voit chez, par exemple, Gangadi a beaucoup changé ces 10 dernières années. Bon, c'est des Américains les deux, mais ça se voit quand ça se voit. Puis même moi, si vous regardez les premières vidéos, quoi qu'il n'y en avait pas au début, les premiers enregistrements audio et maintenant, sens la différence quand je parle. Je ne sais pas si vous sentez la différence quand vous écoutez, mais moi je sens la différence quand je parle. Il y a des choses qui sont beaucoup plus nettes et beaucoup plus claires. Mais le message, en fait, c'est que c'est pas important qu'il y ait des choses qui continuent. C'est bienvenu, tu vois, il n'y a pas de problème avec. La différence, c'est que dans l'état, entre guillemets, je ne suis pas éveillé, dans la croyance, je ne suis pas éveillé, la tristesse, la colère, la culpabilité peut apparaître déjà, chez moi pas, la tristesse, la colère sont mal vécues. Il y a plein de choses comme ça qui sont mal vécues. Alors qu'ici, ce n'est pas mal vécu. Ça, c'est une différence. C'est plus négatif. C'est pas inconfortable d'être triste ou en colère.
Ce que j'appelle manque, en tout cas, c'est que c'est, par contre, c'est très inconfortable. En fait, là où j'ai réagi hier aussi, c'est quand on a parlé de la peur. Et de la peur. Là, je pense que c'est très puissant.
La peur, c'est très puissant. Et souvent, on ne le voit même pas. On ne la voit pas, comme le refus du refus. Souvent, on ne le voit même pas. Et ça tient beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses.
Par contre, ce que je vois, c'est les conséquences. Ce que ça me fait faire ou ne pas faire. Mmh. Par exemple, j'adore le matin. Ce matin, en fait, j'ai pas réussi à me lever. je pense pas que j'avais forcément besoin de dormir, mais c'est comme si j'avais peur, quoi. Une peur de la vie, une peur de si.
Une peur aussi de. Non. Ça te tient aussi. Lyon.
Lyon.
Une peur aussi de. Il n'y a pas de peur.
Non, je viens de constater qu'en fait, on se connaît du travail. À la tête. Oui.
Donc une peur aussi de.
Une peur de.
J'ai pas entendu.
Non, j'ai dit je suis sur l'étonnement que de Nathalie soit. Une peur des conséquences, en fait.
Ah oui, si on se sent responsable, on a peur des conséquences.
Quand je me dis si tout lâche, enfin, une des questions, c'est toujours comment on sait ce qu'on a à faire. Et dans le petit bout là, du mois de novembre,
parce que tu te posais la question, qu'est-ce que je dois faire, comment je dois le faire.
Comment?
À ce moment-là, est-ce que tu te posais la question, qu'est-ce que je dois faire, comment je dois le faire?
Tout de suite là.
Non, en novembre.
Mais non, justement.
Ben justement pas. Tu ne la posais pas. Ça veut dire quoi? Que quand il est réalisé qu'il n'y a pas de moi, on ne se pose jamais cette question. Qu'est-ce que je dois faire? Elle peut paraître, parce que parfois, des choses dans la vie, on doit décider. Mais elle n'est pas prise au sérieux. Il n'y a pas ces trucs-là. Mais qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois m'y prendre? Je ne dis pas que la question n'apparaît jamais. Mais c'est jamais une prise de tête. C'est jamais. Toi, par exemple, même dans un groupe, parfois, je lui dis, tiens, ce que j'essaie de dire n'est pas entendu. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se passe? Alors, c'est même pas qu'est-ce que je dois faire, c'est quoi qui n'est pas vu, plutôt, tu vois. C'est quoi que je ne vois pas. C'est plus, tiens, il faudrait aborder les choses autrement. Et alors, simplement, je laisse venir ce qui vient. Je fais rien, tu vois. Il n'y a pas une recherche d'une réponse. Et simplement, c'est là, et puis à un moment donné, il y a un truc qui sort. Puis ça passe ou ça passe pas, ça n'a aucune espèce d'importance. Et c'est comme ça dans la vie de tous les jours, par rapport aux décisions qui doivent être prises. Tu vois, je sais pas. On me pose une question, je sais pas. Bah, je sais pas. C'est pas un problème. Puis à un moment donné, peut-être 3 secondes plus tard, ou un mois plus tard, je sais. Alors je dis, ah bah c'est ça. on va faire comme ça.
Mais entre les deux, j'ai jamais réfléchi. Et si par hasard il y a des réflexions qui viennent, ah, faudrait quand même que je choisisse, bah, ça me fait doucement rigoler parce que je sais que c'est impossible. C'est-à-dire, tout ça, ça s'effondre. Pas forcément tout de suite chez tout le monde, mais ça, ça s'effondre. La responsabilité, le besoin de choisir, la culpabilité, tout ça s'effondre. Parce qu'en fait, le besoin de choisir, la responsabilité et la culpabilité sont des constructions. On vous a appris quand vous étiez petit qu'il fallait que vous choisissiez et faire les bons choix. Et vous étiez responsable des choix que vous faisiez. Et des décisions que vous preniez, comme si c'était vous qui preniez des décisions.
Ça, il y a des choses que je comprends intellectuellement. Mais
donc, tu l'as vécu.
Oui, ça a été vécu. Et du coup, c'est les petits bouts, les petits bouts de moments où ça a été vécu qui me permettent de, après, d'essayer de mettre en pratique, ne serait-ce que dans le boulot, pour, je dirais pas, d'essayer de lâcher. Quoi, de,
mais... C'est trop, ça. C'est beaucoup trop d'efforts et beaucoup trop de fatigue.
Mais oui, c'est, je suis épuisée.
Évidemment, moi, tu ne pourrais pas être épuisé. Moi, rien que d'y penser, ça me fatigue.
Et du coup, tu vois, par exemple, je vois l'engrenage, quoi, ce matin, c'était...
Bah, t'en finis plus, quoi.
Mais oui, c'est l'horreur. Tout. Et le moindre truc, est-ce que je mange maintenant? Est-ce que je vais aux toilettes maintenant? Quelquefois, c'est fou.
Et la du torture coup, du mental.
C'est l'horreur.
La torture mentale. L'enfer, c'est ça. Hein. C'est pas les autres, l'enfer. Hein.
Et ce matin, dans la voiture... Là, c'est, tu passes par, je passe par, il y a des émotions qui sont là, qui passent. Qui, je me dis, c'est quoi ce bazar? Et hier, en fait.
Ah, ça, c'est intéressant. C'est quoi ce bazar? C'est quoi ce bazar? C'est une bonne question.
Ah, oui.
C'est quoi ce bazar? C'est le bazar.
C'est une habitude.
C'est des habitudes, c'est des conditionnements, c'est la manifestation de peur, donc de pensées crues. C'est un bazar.
Et puis, il y en a, ça diffuse tellement vite que c'est.
Oui, et ça mène nulle part. Droit dans le mur, à la rigueur. Oui. Droit dans le mur, à la rigueur. Tu vois, stop. Arrête d'y croire. Arrête d'y accorder tellement d'importance.
Justement, mais du coup, je le fais. Ça se fait pas volontairement. Enfin, si,
non,
je
vais
le
faire
volontairement un petit peu. C'est-à-dire que là, par exemple, je regardais, je me dis, c'est super, les montagnes sont superbes. Ouais. Pourquoi est-ce que parfois, quand je les regarde, ça me. Rempli de joie, et pourquoi là je les regarde, mais je suis obligée de faire un effort et je n'ai pas cette joie, je suis dans l'émotion.
C'est simple, parce qu'à certains moments, la beauté t'apparaît spontanément, à d'autres moments, elle n'apparaît pas spontanément. C'est pas un problème. N'en fais pas une histoire.
Voilà, c'est ce que je me disais. Après, c'est ce que je faisais. Tu vois, après, je me disais, bon, c'est pas grave, c'est ça. Mais alors, c'est obligé de rattraper. De...
Il te manque un peu le rire, toi.
Ah, ben oui.
Rigole un peu de tout ça, c'est juste la folie du mental qui se manifeste. T'es pas obligé de le prendre au sérieux, tu vois.
Mais oui, je pense que la peur de la folie aussi, dans la peur.
Deviens folle. Je t'encourage à devenir vraiment folle. Folle de ne pas croire à toutes ces histoires. C'est parce que on a l'âge de raison. Voilà, on est conditionné par l'âge de raison. À partir de 7 ans, on doit être sage, on doit être raisonnable, on doit penser juste et bien, etc. Mais c'est ça la folie. La folie, c'est toutes ces pensées, tu le vois bien. Donc, sois folle de l'absence de croyance en toutes ces conneries.
Tout à l'heure, quand tu l'as dit, ça éveille une peur. Enfin, bien sûr, je sais pas si c'est bien sûr. Là, non, ça éveille du rire aussi.
Ah, enfin. Rigole de tout ça. Ça, tu peux en faire un drame et dire, oh là là, mais c'est horrible, mais regarde, je sais même pas si tu dois boire ou aller aux toilettes, enfin, tu vois, des trucs. Ça se tape la tête contre les murs, quoi.
Oui, non, mais
tu vois, la seule façon de le prendre, c'est par la dérision, c'est de rigoler. Mais t'as vu ce mental, dans quel... Piège, il tombe, t'as vu un peu toutes ces pensées. Comment ça te crée un enfer de malade, quoi? C'est la folie même. Arrêtez d'y croire, simplement. Mais attends, le mental, mais tu crois vraiment que je vais écouter tes sornettes, là?
Mais arrêtez d'y croire volontairement, quand même. C'est obligé de...
Alors, je vais le dire autrement. Réaliser que tout ça, ça crée un enfer inutile. Réaliser que ces pensées ne t'aide en rien, crée de un mal-être existentiel important, ne dise rien à propos de la réalité, de la vérité, de la manière d'atteindre le bien-être que tu recherches. Tu vois ? Ça ne dit rien à propos de rien. C'est juste un enfant fou qui fait n'importe quoi. Tu vois ce que je veux dire ? L'image, tu as l'image ? C'est ça, tu vois, c'est comme un gosse qui fait n'importe quoi, qui juste fait des conneries, pour faire des conneries. Et maman, elle essaie d'en prendre soin, de prendre tout, tu vois, des... Mais ça ne sert à rien. C'est du style, mais quelle connerie est-ce que je vais le laisser faire plutôt que quelle autre... Quelle est la moins mauvaise des conneries, tu vois ? Mais c'est toutes des conneries. Ça ne sert à rien. Stop. Mais il faut le voir, effectivement, il faut le voir. Voir que toutes ces pensées, aucune de ces pensées ne va t'amener la paix que tu cherches. Aucune de ces pensées n'est donc pertinente. Donc, jette-les toutes. Refuse de les croire à partir du moment où il est compris que de toute façon, elles ne t'apporteront rien. Comment est-ce qu'on peut, un instant, croire qu'il est plus important là maintenant tout de suite de manger que d'aller aux toilettes? Ça n'a pas de sens.
Ça, j'ai pris l'exemple le plus...
Mais oui, mais justement, c'est un très bon exemple. Ça montre vraiment que ça n'a pas de sens. Mais comment est-ce qu'on peut croire qu'il est plus important de passer par tel chemin que par tel chemin? Ça n'a pas de sens. Au pire, tu mettras 3 minutes de plus. Ou même si c'est 1 heure, qu'est-ce que ça peut faire? Le monde ne va pas s'écrouler.
Je pense qu'il y a... Comme s'il y a le côté peur de la folie, c'est plutôt comment s'ajuster avec la réalité matérielle de ce monde, quoi.
Mais ça va s'ajuster tout seul. Tu as dans l'idée que ça ne peut pas s'ajuster tout seul. Tu as dans l'idée qu'il faut que je fasse quelque chose pour que ça s'ajuste. Et alors, si c'était faux?
Peut-être que c'est... Parce que quelquefois, j'ai dû essayer de lâcher des trucs, mais pas de la bonne façon.
Mais tu ne peux pas lâcher. Il n'y a pas de moi qui puisse lâcher ou pas lâcher. Personne n'a jamais rien lâché. Ça lâche à un moment donné. Ou pas. C'est ça qui s'est passé en Inde. À un moment donné, ça s'est dit, toi tu n'as rien fait, il n'y a pas de moi. Ça s'est dit, mais finalement, je serais mieux d'arrêter toute recherche et d'être simplement main dans la main avec Dieu, et puis voilà. Et pouf, le lâcher-prise se produit. Jusqu'au moment où ça se dit, il faut quand même que j'arrive quelque part. Il faut que je fasse quelque chose. Il faut que je voie la beauté dans le monde. Il faut que je réalise je ne sais pas quoi. Il faut que...
C'est fini. Ce qui a arrêté, c'est, est-ce que j'ai fait ça, est-ce que j'aurais pas dû faire ça?
Voilà, c'est pareil. C'est pareil. Est-ce que je suis sur le bon chemin? Il n'y a pas de chemin.
Et du coup, ça m'énerve quand il y avait un moment où tu disais d'être dans l'étroité, ça m'énerve. Parce qu'en fait, j'ai la sensation d'être un espèce de chenille dans son cocon, alors que tous les autres ils ont la papillon, et qu'en fait je peux pas moi m'asseoir et rien. Hier j'arrêtais pas de bouger. Déjà de se dire là aujourd'hui il fait beau, je vais toute la journée assise sur une chaise, c'est il y a encore voilà. Et du coup il y a cette impossibilité d'être de volontairement à l'instant, de se dire ah, c'est là. Je ne sais pas ce que ça veut dire d'ailleurs d'être traité exactement, mais j'ai une image peut-être de ce que de ce que tu appelles ça. Mais ça, du coup, ça éveille de la. Il y a de l'énervement, il y a de la.
J'essaye d'arrêter d'être.
Oui, alors ça, je...
T'arrives ?
Je n'ai pas toujours conscience d'être, en tout cas.
Essaye d'arrêter d'être, est-ce que tu y arrives ?
D'y arrêter, je pense pas, mais je...
Regarde.
Je sais bien que c'est pas possible.
C'est comment, comment tu le sais ? Faire ensemble, percevez l'espace. L'espace, je ne sais pas si c'est trop rapide. Est-ce que vous arrivez directement à percevoir l'espace? L'espace autour de vous, enfin l'espace de la pièce par exemple. Il y en a qui n'y arrivent pas? Dans l'autre sens, tout le monde y arrive?
Mm-hmm.
Toi aussi?
Ça coince à droite.
Il y a qu'un morceau. Mais un morceau d'espace. Ça me suffit. Perçois ce morceau d'espace. Et reste avec ce morceau d'espace. N'exclus pas ce qui coince à droite. Inclus-le dans l'espace. Au sein de l'espace, il y a quelque chose qui coince à droite. Tu vois ce que je veux dire? C'est clair ça ou pas?
Je sais pas parce qu'il y a de la panique.
Aïe, aïe, aïe.
C'est le bazar.
Ouais, c'est le bazar. Ok, il y a la panique. Accueille la panique dans l'espace. La panique apparaît au sein de cet espace. La panique ne peut pas apparaître en dehors de cet espace. Il n'y aurait pas d'espace, il n'y aurait pas de panique parce qu'il n'y aurait même pas de corps. Tu es d'accord avec ça?
J'ai du mal à la fois t'écouter et...
Prends le temps. Quoi que ce soit qui apparaisse, ça apparaît forcément dans l'espace. Parce que s'il n'y avait pas d'espace, rien ne pourrait être contenu. Il n'y aurait pas de corps, il n'y aurait pas de chaise, il n'y aurait pas de pièce, il n'y aurait pas de mur, il n'y aurait pas de plafond. Et donc, il n'y aurait pas tout ce qui se vit dans le corps. En l'absence d'espace, il n'y a rien. En présence d'un espace, tout peut apparaître en son sein. Les murs, le plafond, le sol, le corps, la chaise, les autres, et tout ce qui se passe dans le corps, les sensations, les perceptions, les émotions, les peurs, la mémoire, tout apparaît au sein de cet espace. C'est clair ? D'une façon générale, on oriente l'attention vers le corps, les sensations, les perceptions, la mémoire, l'histoire personnelle, etc. Et là, je vous demande d'orienter l'attention vers l'espace. L'espace qui contient tout ça. Et tout ça arrive au sein de cet espace. Le corps apparaît au sein de l'espace. Et tout ce qui se produit dans cet organisme apparaît au sein de l'espace. Les pensées apparaissent au sein de l'espace. Tu perçois ça ? Perçois cet espace qui englobe tout.
Je sais que les
là maintenant tout de suite.
Maintenant.
Ce qui s'est passé
avant. Je m'appuie pas totalement parce qu'il y a des choses arrivent. Des choses qui.
Qui quoi?
Attendez. Ce qui vient.
Les pensées, elles apparaissent au sein de l'espace. Constate que les pensées apparaissent au sein de l'espace.
Pas les mêmes. En fait, il y a une différence entre. Je ne les vois pas parce que arrivé au sein de l'espace. Pour moi, les pensées ne sont pas dans le monde. Parce que l'espace, c'est de la matière.
Mais enlève l'espace. Enlève l'espace. Est-ce qu'il y a un corps? Est-ce qu'il y a des pensées? Sans espace, tu peux avoir un corps ?
Il y a un point. Non, pas un corps.
Les pensées, ça passe pas dans le corps. Je sais pas. Les pensées, elles sont constatées. Regarde cela qui constate qu'il y a des pensées qui apparaissent. C'est ça l'être.
Il n'est pas souvent disponible. Il y a tellement de bavards de moi.
Il est tout le temps là en fond. Oui, t'as dit oui.
Oui.
Eh ben alors.
Je commence à
le savoir ou à le percevoir. Tu as connaissance du fait que cela qui constate est toujours là en fond. Ok. Reste avec cela qui constate. Constate que ça constate. Tourne le regard vers cela qui constate.
Il a peur de disparaître.
Oui. Et bien laisse le regard quand même vers cela qui constate. Et à la peur, et à le regard qui est tourné vers cela qui constate. Cela qui constate n'est pas affecté par la peur.
Quand il y a la peur, ça occulte la vision.
Si l'attention, si le regard se tourne vers la peur, ouais, si l'attention se tourne vers la peur, évidemment, ça, c'est pas que ça occulte, c'est que ça oublie. C'est l'histoire du sourire de la Joconde. Si tu regardes que le sourire, tu oublies tout ce qu'il y a autour. Ça ne veut pas dire que c'est pas là. Imagine qu'il n'y ait que le sourire avec rien, un blanc tout autour. On n'en aurait pas fait une œuvre d'art. C'est une œuvre d'art parce qu'il y a quelque chose autour du sourire. Puis tu regardes le sourire de la Joconde, puis après tu dézoomes et tu vois tout le tableau en entier. C'est une autre expérience. Ça dépend sur quoi l'attention se porte. Si elle se porte uniquement sur la peur, évidemment que le reste passe en fond, il est oublié. Cela qui constate est oublié. Ça n'empêche pas qu'il est là. Enfin, il n'est plus conscientisé, on devrait dire.
Du coup, il y a peur, puis après, il y a les pensées du genre. Tu vois, ça c'est bien. C'est,
oui.
C'est ça qu'il faut tenir.
Mais et tu es entraîné par tout ça.
Tu n'es pas capable, tu vois, tu n'arrives pas, tu n'arrives pas.
Et tu es entraîné. Enfin, ça t'entraîne, ça entraîne, tu vois. Et oh là 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 là.
Et du coup, ça c'est bien que pour pas que ça se perde, il faut arrêter ça, mais c'est bizarre.
Tu peux pas l'arrêter. Reviens à cela qui constate. Là, tu es en train de constater quand tu dis ça. Ah, je constate que quand il y a la peur, alors le regard s'oriente vers la peur, et puis il y a toutes les pensées, et puis ça se colle à tout ça, et puis, ah, ça devient l'enfer. Mais tout ça, c'est constaté. Quand tu en parles, c'est que c'est constaté. Donc, qu'est-ce qui le constate ? Reviens à cela qui constate. Retourne le regard vers cela qui constate. Et c'est comment ?
Ça marche pas, c'est il y a quelque chose qui n'arrive pas.
C'est comment cela qui constate. Quand ça marche pas, c'est un ailleurs. Là, tout de suite, ça constate.
Non, enfin, oui, j'ai pas la sensation que ça constate.
Mais tu viens de me dire. Quand il y a de la peur, après il y a les pensées, après ça part là-dedans. Tu viens de me le dire, c'est ça le constat. Qu'est-ce que c'est qu'il constate? Reviens à ça. Tu cherches midi à 14h, c'est très simple. Mais tu vois bien que c'est constaté quand, puisque tu le dis. C'est pas clair?
Ça fait un petit peu, mais c'est...
Mais. Tout de suite, tu vois? Ça fait un petit peu, mais. Tu vois, c'est... Reviens, c'est la question de tâte. Oui, ça fait un petit peu, mais. Tout de suite, t'es, paf, tu repars.
Je reste pas.
Personne ne te parle d'y rester.
Hein?
Mais quand tu dis j'y reste pas, c'est cela qui constate qui dit j'y reste pas. Donc c'est constaté, j'y reste pas. Reviens, cela qui constate, j'y reste pas. C'est marrant comme ça qu'il faut le corps, hein. C'est dingue, hein. Mais, n'exige pas de toi que ça tienne. Reviens-y.
Moi, je voudrais parler de l'être paix. J'étais pas là tout à l'heure, mais pour moi, comme je perçois un peu les choses simplement, c'est que il y a la vie. Moi, je suis une petite partie d'incarnation de la vie qui est complète et unique quelque part. Et cette vie qui passe à travers moi. Et parfois, je suis consciente. Parfois, je suis tellement conditionnée que je suis moins consciente. Et l'être T, j'ai bien l'impression que je n'ai pas la volonté d'être ou de ne pas être, je suis comme ça. Et j'ai du mal avec ce... Moi, j'ai la vie qui passe à travers moi, qui suis un endroit complexe. Et quand ça dit je suis conscient, je suis pas conscient, c'est encore un sujet, ça me pose question, ce problème d'être-té, de sujet. Tu vois ? Il y a un sujet qui est conscient encore.
Dans ce que tu dis aussi. Quand tu dis que tu es une petite portion de la vie, que la vie passe à travers toi, déjà il faudrait choisir, tu es une petite portion de la vie ou bien c'est la vie qui passe à travers toi. T'as un sujet.
Ben, plus ça va, plus je force moins les choses. Par exemple, si je fais le matin des exercices de yoga, ça me vient. C'est plus je décide, il faut. Ça me vient et j'apprécie.
Est-ce que tu m'as entendu dire, moi, décide, il faut que tu...
Non, pas il faut que je... Ça vient.
Est-ce que tu m'as entendu, moi, dire quelque chose comme il faut, tu dois?
Non, mais le sujet de conscience. Je suis conscient.
Je suis la conscience même, je suis la vie même. Je ne suis pas une portion de la vie. La vie ne s'écoule pas à travers moi. Je suis la vie. Toi, tu pars du principe que tu es cet organisme.
Oui, je pars du principe qu'il y a quelque chose...
Cet organisme apparaît en toi.
Oui, il y a quelque chose d'unique en chacun. On est très complet.
Il y a quelque chose d'unique en chacun organisme. Chaque organisme est unique.
Oui.
Et tous les organismes apparaissent en ce que je suis.
Oui, sinon on n'aurait pas de contact. On ne serait pas un.
Donc si tous les organismes apparaissent en ce que je suis, y compris celui que j'ai cru à un moment être moi,
l'un n'empêche pas l'autre, c'est-à-dire que pour moi d'être unique et d'être un, d'ailleurs dans l'unique il y a un, d'être un relié, je veux dire un ensemble, un à la vie, quoi. Et ce jeu qui prend conscience.
C'est un changement de focalisation, France, c'est un changement de focalisation. Toi tu crois que tu es cet organisme, dans tout ce que tu dis, tu es identifié à cet organisme.
En partie, oui.
Moi pas. Moi, je suis identifié à la vie dans son ensemble, et à tout ce qu'elle contient, à l'espace dans son ensemble, et à tout ce qu'il contient.
Donc il y a quelque chose qui l'écoute, qui le voit, la vie.
Ce qu'elle contient. Je suis la vie.
Celle qui perçoit l'espace. Il y a un sujet qui perçoit l'espace. Il y a un sujet qui entend. Qu'est-ce qu'il entend? Qu'est-ce qu'il dit ces moments? Qu'est-ce qu'il dit?
Ce qui est.
Et ce qui est là, sous cette forme unique, c'est quoi?
Insaisissable. Tout ce qui peut être connu est connu. Tout ce qui peut être connu est connu. Qu'est-ce qui le connaît? C'est forcément quelque chose de non connu. Et même d'inconnaissable, sinon ça ferait partie du connu. Qu'est-ce qui connaît tout ce qui peut être connu? Même l'être-té est connu. Qu'est-ce qui connaît l'être-té?
Ben, c'est l'être-té.
Non. Je suis et je sais que je suis. Qu'est-ce qui sait que je suis? Ce qui est. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce qui est?
D'accord.
Rien. C'est indubitable et insaisissable et inconnaissable. Et cependant, c'est indubitable. C'est-à-dire qu'on en a le goût, le parfum. On n'a aucun doute sur le fait que c'est. C'est donc une aperception, mais on ne peut rien en dire de plus. On ne peut que l'être. Et en tant que ce qui est, Dieu, mais tout le reste n'est qu'une apparition au sein de ce qui est, au sein de ce que je suis en tant que ce qui est.
Tu vois ce petit, ça a l'air de rien, mais ce qui est, je suis. Tu vois ça là, ce qui est, je suis.
Des mots, t'accroches pas aux mots.
Ah oui, mais je m'accroche. Ça a du sens pour moi, les mots. C'est pas du hasard.
Oui, ça a du sens. Parce que je suis ce qui est. Qu'est-ce que je pourrais bien être d'autre? Ce qui est et je suis sont un. Enfin, ce que je suis et ce qui est sont un. Le Père et le Père et moi sommes un. C'est ça.
Pourtant, le jeu n'est pas né de... à sa fonction, le jeu a sa fonction.
Comment c'est une facilité langagière?
Hein?
C'est une facilité langagière.
Bon, d'accord.
Ça permet d'éviter les périphrases.
D'accord.
Ça permet de parler. Sinon, comment tu peux dire que... Comment tu peux dire ce que je suis, c'est ce qui est? Tu peux pas le dire si tu n'emploies pas le mot « je ».
Facilité langagière, je me rappelle avec ça.
Pardon?
Facilité langagière, je me rappelle.
Ouais, ouais.
C'est-à-dire que le sujet a été créé pour la communication.
Mais oui, les pronoms personnels servent à communiquer. Mais ils n'indiquent pas un individu séparé.
D'accord.
Pour la simple et pour bonne raison qu'il n'y a pas d'individu séparé. Il n'y a pas d'agissant, il n'y a pas d'auteur. Personne n'a jamais rien fait. Les choses arrivent. Tout arrive de soi-même. Au sein de ce qui est et que je suis, que je ne peux pas ne pas être. On pourrait dire, on ne peut pas le dire. Je vais dire quelque chose et je m'aperçois, moi je vais le dire, ben non, c'est une connerie. Dès qu'on parle, on ment, dit Karl Renz, il a raison. C'est exactement ça.
Pourtant, c'est dû peut-être à mon âge, mais je commence un peu à penser à la fin de vie comme une chose qui se rapproche.
Douce et agréable.
Eh bien, pas pour que ça, j'ai pas envie. Quelque chose en moi n'a pas envie. Et donc, je dois aimer la vie vivante et... Et le reste, je ne sais pas. Et...
Mais, parce que tu crois que quand le corps meurt, la vie n'est plus vivante?
Je ne sais pas.
Mais en tant que ce qui est, qui englobe absolument tout ce qui peut être connu, où est la mort?
Tout est transformation, mais...
Où disparais-tu, ce qui est? Depuis quand est-ce que ce qui est peut-il disparaître?
C'est la forme.
Mais c'est que... Ouais, un milliardième de milliardième de la manifestation de ce que tu es.
Toute la vie, je suis avec ce machin, là. Je vais pas me dire, je suis ça. Non, je suis pas ça.
Ben, c'est ça la différence. Et toi, tu crois que tu es cet organisme. Et tant que tu crois que tu es cet organisme, et qu'en plus, tu vas j'allais dire te gargariser, presque, tu vois, le mot n'est pas joli, mais je ne sais pas quel autre, il n'y en a pas d'autre qui vient, te gargariser avec l'idée « je suis cet organisme et la vie s'écoule à travers moi », évidemment, tu n'as pas envie que l'organisme meure. Parce que s'il meurt, « ah, je ne suis plus rien, je disparais ». La vie a arrêté de passer à travers moi, badaboum, le corps s'écroule et retourne à la poussière. Mm-hmm. Forcément, mais si t'es la vie n'en a rien à faire de passer à travers cet organisme ou à travers un autre. Si t'es ce qui est, au sein duquel toute la vie apparaît, excuse-moi, t'en as encore plus rien à faire, encore rien à faire de plus. Enfin, c'est encore, tu vois, c'est complètement libre.
Oui, je suis encore sacrément identifié. Hein.
Ah ouais, ouais. Donc forcément, la mort est crainte.
Oui. Oui.
Forcément. Oui. Ça va avec. Tu en payes le prix. Et tant que tu crois que tu es cet organisme et que tu es une portion de la vie et que la vie passe à travers toi et jouer les violons, eh bien tu vas en payer le prix, tu auras peur de la mort.
Oui, c'est vrai. On peut avoir peur, ne pas avoir peur de la mort, dans l'absolu, et avoir peur de la façon de mourir.
Oui. C'est pas ce qu'elle disait.
Non, je sais, je sais.
Non, moi je désire la paix, hein. C'est pour ça que je désire la paix, c'est-à-dire arriver à ce moment-là en complète, le passage de la vie, de, tu vois, en paix, quoi. Oui, c'est ce que je te dis sincèrement, honnêtement, ce que je suis là.
Dans ce cas-là, tu fais l'expérience de la vie qui passe à travers le corps, tu fais l'expérience de la paix dans ce corps. Tu es la paix et tu es la vie. Avec ou sans corps, avec ou sans l'expérience de la paix et de la vie.
Tu trouves qu'il y a quand même une notion de début et de fin quelque part. Est-ce que une naissance et une mort?
Apparemment, tout apparaît et tout disparaît. Tout ce qui peut apparaître va disparaître. C'est une apparition, c'est apparemment, c'est comme les rêves. Ça apparaît. Est-ce que tu vas dire qu'un rêve naît et qu'il meurt?
D'où vient cette nostalgie de la vie? Cette conscience, quand tu as conscience que tout naît, que tout meurt, d'accord, hein? D'accord.
Mais qui a dit que ça naissait et que ça mourait? Pense à un rêve. Est-ce que tu dirais un rêve naît et un rêve meurt?
Passe.
Ça passe. Le rêve, il apparaît. Il vit sa vie de rêve, entre guillemets, et il disparaît. Et quand tu te réveilles, tu dis « Ah, c'était juste un rêve. »
Ben, j'arrive pas à dire que je suis juste un rêve.
Ben oui, c'est la différence.
Il se passe des choses concrètes.
Mais dans un rêve aussi, il se passe des choses concrètes, apparemment.
Oui, sa couleur et sa forme.
Apparemment, c'est très concret. Et cette vie est aussi une apparence, c'est une apparition. Au sein de ce qui est. C'est le rêve de ce qui est rêve. Et ils se bidonnent quand ils entendent dire « Je suis une portion de la vie passe à travers moi. » Il fait l'expérience d'être en train de rêver que en lui, France dit ça et croit ça. Mmh.
C'est pour
ça
que je suis là,
c'est pour entendre ça. Ah ben voilà, merci. Ce qui est ce rêve, en tant que tout ce qui est connu, c'est Papaji qui s'est éveillé suite à une phrase de Ramana Maharshi où il a dit ce qui s'en vient et s'en va n'est pas réel. Dire, c'est constaté. Ce qui apparaît et disparaît est constaté. Donc c'est pas réel. C'est pas ce que je suis. Ce que je suis, c'est beaucoup plus cela qui constate. Mais même cela qui constate est constaté.
Alors,
qu'est-ce qui constate cela qui constate? Qu'est-ce qui constate je suis? Ce qui est. Cela qui ne peut pas être connu. Tu ne peux être que ce qui ne peut pas être connu. Parce que tout le reste ne fait qu'apparaître et disparaître. Et donc n'est pas réel. N'est pas définitivement réel. Sur ça, une réalité. Un film aussi est une réalité. Des images qui définissent sur l'écran. Un rêve aussi, ça a une réalité. Mais c'est pas réel, c'est pas définitivement réel. Tu voulais rebondir sur ce que tu disais?
Bah non, je voulais juste te dire en fait que quand on dit on a peur de la mort, est-ce que c'est vraiment la mort qu'on a peur ou la façon de mourir, simplement, voilà.
Ça peut pas y avoir les deux.
Et après, en termes de constatation, je voulais juste dire ce qui se passait pour moi ici. En fait, ça ne se passe pas du tout, j'ai pas du tout de questionnement, ça se passe beaucoup au niveau du corps. Et en fait, c'est vrai qu'il y a une qualité, je parle en termes d'énergie, parce que moi, je la qualifie comme ça. D'abord, il y a beaucoup plus de circulation, genre, au niveau du corps, au niveau des mains. Puis du coup, il y a l'espace qui s'est ouvert, et puis quelque chose qui s'est tranquillisé. C'est comme si je me posais quelque part, comme ça, en termes un peu de s'étaler, je ne sais pas comment expliquer ça. Du coup, je suis plutôt dans un état de détente. Mais je n'ai pas vraiment de questionnement.
Et cet état de détente est constaté.
Oui, il est constaté, oui.
Et ceux-là qui le constatent.
Ouais.
Revenez toujours à ceux-là qui le constatent. Ceux-là qui constatent.
Moi, je peux dire, par rapport à beaucoup la mort, je me rends compte que, alors, est-ce que c'est celui qui constate qu'il y a des éléments, donc, hier, que vous avez parlé, donc, la personnalité, d'autres couleurs, de la pensée moi. Donc j'ai pas peur de perdre, il me semble, la pensée moi, que disparaisse l'ego avec toutes les croyances crues. Au contraire, je crois que ce serait un grand soulagement. Mais la couleur de la personnalité,
elle demeure,
même si.
Elle demeure.
Même si la pensée moi disparaît.
Évidemment.
Là, du coup, c'est plus.
La personnalité demeure.
Oui.
La personnalité demeure. Ta couleur propre a demeuré. Il n'y a pas deux arts pareils. Il n'y a pas deux êtres humains pareils. Évidemment que ça demeure.
Mais après la mort, ça ne demeure plus. Ça se transforme.
Mais qui est là pour s'en soucier?
Ah, ça, c'est autre chose.
Est-ce qu'elle ne demeure plus?
L'arbre où nous, on devient cendre, on se transforme dans la terre et tout ça, mais quelque part, notre couleur même, elle est partie.
En tant que personnalité, bien sûr, la personnalité meurt avec le corps.
C'est ça dont elle parle.
Mais on laisse une couleur quand même, non?
Quentin.
Alors, on transmet, moi, il me semble que tu laisses quand même.
Mais évidemment que l'empreinte que tu portes posée dans le monde, elle va demeurer d'une certaine manière. Mais quelle importance! Mais complètement! Ça moi en tout cas, mais complètement!
D'ailleurs, on a tellement mis un saut que ceci est vrai, ce n'est pas lui, je crois. Oui, on s'y attache quand même à cette personnalité.
Oui. Parce qu'il y a identification, tant qu'on croit qu'on est ça.
Pourquoi est-ce qu'on a plus envie de laisser de l'amour que de l'indifférence?
On a plus
envie de laisser de l'amour au monde.
Parce qu'on est l'amour et qu'on n'est pas l'indifférence. L'indifférence, c'est une construction mentale.
Le souvenir, tu veux dire? L'amour, c'est quelque chose qui réchauffe la vie, je sais pas, qui permet à la vie d'être plus vivante encore, je sais pas. Voilà.
Mais la vie, c'est l'amour. L'amour, c'est la vie. C'est des synonymes.
Ça, c'est la vie. Ça, c'est l'amour.
L'amour, la vie, la paix, la joie, la sérénité, c'est juste, comme je disais hier soir, les facettes d'un même diamant. Juste le regard d'un autre côté.
En même temps, quand tu dis qu'est-ce qui fait qu'on a plus envie d'essayer de l'amour que de l'indifférence, pour moi, c'est déjà revenir à une partie duelle, de dualité. Alors qu'en fait, ce que j'en perçois, c'est que, à la limite, qu'est-ce que c'est que cette. Il y a une partie duelle qui va définir que ça c'est l'amour et que ça c'est l'indifférence. Alors qu'en fait, ce qui vit se fout de cette manifestation d'amour, il n'y a pas cette manifestation-là dans la.
Puisque tu as envie, dépend essentiellement du fait que tu crois en l'idée d'un moi, parce que. Ce que je peux constater pour moi, c'est que à partir du moment où il n'y a plus l'idée d'un moi, il n'y a plus de désir de quelque chose qui n'est pas là. C'est-à-dire que s'il y a des bananes et du chocolat, il peut y avoir de désir de manger une banane plutôt que du chocolat ou l'inverse. Mais s'il n'y a ni banane ni chocolat, l'idée de manger une banane au chocolat a peu de chances d'apparaître. Ben, faudrait que si, il faudrait vraiment qu'il y ait faim. Alors, il y a des images, des souvenirs qui vont revenir. Mais je veux dire, ce que je veux dire, c'est que j'ai pas envie d'une belle voiture, de je sais pas quoi, tu vois. J'ai pas envie de quelque chose qui n'est pas là, ni dont il n'y a pas besoin maintenant, physiquement, concrètement.
C'est curieux parce que le mot envie, c'est dans la vie. Le mot envie. Comme si non, ça
mais quand tu dis j'ai envie de laisser plus d'amour que d'indifférence,
oui.
C'est un désir dans le futur.
Dans le présent. C'est dans le présent, dans le futur.
T'as envie que les gens t'aiment ?
Et les deux, et que je les aime. Et que le monde, je l'aime, et que ça se infiniment se perçoive. Que ça apporte une énergie, que ça... Je sais pas
si c'est parce que je suis pas clair, et parce que j'ai le rhume, ou... quoi ? Mais j'ai juste envie de répondre, mais moi j'en ai rien à faire.
Oui, moi je t'entends.
Mais je ne sais pas si, sincèrement, je ne sais pas si c'est parce que j'ai une vision claire ou pas. Sincèrement, je n'ai rien à faire que les gens m'aiment ou même pas. Ça, c'est sûr.
Est-ce que c'est un jugement quand tu dis... quand tu dis je préfère laisser de l'amour que l'indifférence, c'est un jugement.
Oui, il y a une étiquette. Ce qui est bien, ce qui est mal.
Oui. Non,
ce qui est mieux, ce qui est moins bien.
L'amour, ce n'est pas bien ni mal. C'est l'amour.
L'indifférence.
De toute façon, pour moi, l'indifférence n'existe pas. C'est une construction mentale. Vraiment. Donc, partant de là, si je laisse quelqu'un indifférent, bah, qu'est-ce que ça me fasse, moi ? Il a le droit de croire ce qu'il veut. Alors, généralement, je ne laisse pas les gens indifférents, d'après ce qu'ils semblent. Ou on m'aime ou on ne m'aime pas. Il y en a qui ne m'aiment pas, hein. Je les aime quand même.
Donc toi,
ça me suffit.
L'amour coule.
Bah oui, je suis l'amour, comme voudrais-tu qu'il coule pas. Comment voudrais-tu que ce que je suis ne se manifeste pas? C'est comme si tu disais le soleil arrête de briller. C'est juste pas possible.
Ben, quand tu meurs, comment continue à briller à travers toi?
Pas à travers cet organisme, mais en soi. Le fait que l'organisme meure ne change rien au fait que je suis l'amour. Avec ou sans organisme, je suis l'amour. Je suis ce qui est, qui se manifeste en tant que toutes les qualités réputées divines, l'amour, la paix, la joie, la sérénité, etc., qui sont déjà que des manifestations, en fait. Et évidemment, ça ne peut pas ne pas rayonner, ne pas s'exprimer, ne pas être. Ça ne peut pas. Ça ne peut pas. Tranquille. Pas besoin de m'en soucier.
C'est sûrement quelque chose qui a à voir avec le pourquoi de cette identité auquel...
Il n'y a pas de raison. Il n'y a aucune raison à l'apparition de cette identité spécifique. Ça apparaît.
Ça apparaît.
Ça n'a pas de sens et ça n'a pas besoin d'en avoir. Mais oui, c'est une apparition. C'est qu'une apparition dans la conscience. Mais oui, mais bien sûr, mais comme dans un rêve. Tu crois dans ton rêve? Tu crois vraiment qu'il y a plusieurs personnages qui sont en interaction avec toi? C'est pareil. Et même dans ton rêve, tu t'identifies à toi dans le rêve. Mais c'est quand même pas toi, c'est qu'une image de toi dans un rêve. C'est pareil. C'est une apparition dans la conscience. Et dans le rêve, tout paraît réel. Si tu te bats avec quelqu'un, tiens, si quelqu'un te court après, t'as vraiment peur. Et tu transpires. C'est comme dans un rêve. Qu'est-ce que je te dise, moi? La vie est un rêve. L'existence dans son ensemble, l'univers, est le monde du rêve. Il n'y a qu'un rêve. Il n'y a pas 36 millions, il n'y en a qu'un.
Et le respect de ces formes, là on est, je ne sais pas, une vingtaine, le respect de ces formes différentes, c'est pas du rêve. Le respect.
Mais dans les rêves aussi, tu respectes les autres. Peut-être pas toujours, mais pas tous.
comment tu appréhendes ce rêve?
Ça sous-entend que je l'appréhende.
Mais non,
ça accroche là, tu vois.
Oui,
est-ce que j'appréhende quelque chose? Qu'est-ce
non,
que j'appréhende?
Mais voilà, c'est tout, les rêves, donc illusion, oui. Et, comment tu places ma...
Je me place, je cherche pas à me placer.
Non, tu ne places pas, mais...
Ça se fait, ça bouge.
Mais t'es dedans.
Bah, l'organisme est dedans, l'organisme fonctionne dedans.
Oui.
L'organisme corps mental est dedans et fonctionne dedans. Ben oui, sinon je ne serais pas là. J'ai même pris le train pour venir. Dedans. Il a fallu que je descende au bon moment. Donc je suis dedans.
T'es dedans, mais t'es pas dupe que t'es dedans, c'est ça?
Ah, dans l'ensemble, non, je suis pas dupe que je suis dedans.
Mais il y a encore un sujet qui n'est pas dupe.
Ah, oh, mais arrête de t'accrocher aux mots.
Ah, oui, c'est vrai, j'avoue.
J'ai perdu ce que je voulais dire.
Tu descendais du train.
Je suis pas dupe que je suis dedans. Parfois, je suis dupe, parfois, je suis pris comme tout le monde. Mais dans l'ensemble, non, dans l'ensemble, ça rigole. Mais même quand c'est pris que généralement qu'une demi-seconde, parce que ça rigole en même temps. Et ça, parfois, ça joue à continuer de faire semblant d'être pris parce que c'est marrant. Ouais, ce matin, je rouspétais parce qu'il y en avait marre d'être malade. Ah, mon bête d'être malade. Et en même temps, ça rigolait. Alors. Et d'abord, j'ai envie de continuer d'en avoir marre, tu vois. C'est drôle d'en avoir marre. Ça, c'est différent. Donc, c'est dedans sans être dedans. Enfin, c'est pas moi qui l'appréhende, ça s'appréhende. Enfin, je sais pas.
Ce que tu viens de dire me fait penser que le matin, quand je me réveille, et que j'ai eu un rêve et que j'ai l'impression que ça peut prendre de réalité, j'ai envie qu'il se prolonge. Donc, je prolonge encore le petit instant où je suis dans le lit au contact de ce qui s'est passé dans le rêve. Et quand tu dis je constate que j'ai envie de râler, et je sens que ça fait peut-être encore cette sensation de râler pour ne pas être malade, ça me fait penser à ça. Ça m'évoque ça.
Oui, sauf que c'est pas seulement le rêve, ça reste
de plaisir. Il y a autant de plaisir à prolonger quelque chose d'agréable qu'une autre manifestation. Et que ça s'amuse de ça.
Ça s'amuse de tout.
Ouais. C'est ça que je constate, c'est cette part qui s'amuse aussi bien de l'un que de l'autre, avec le même plaisir,
ouais.
Avec la même sensation.
Exact. Que ce soit étiqueté agréable ou étiqueté désagréable par le commun des mortels, c'est juste fun.
Voilà, c'est ça.
Juste amusant dans l'ensemble.
Et ça, c'est un indicateur de là où on est, de ce qui se passe.
Ça peut être une expérience à un moment donné de s'amuser de tout, d'être amusé par de tout. Mais dans l'absolu, en tout cas, lorsque l'on perd la croyance, lorsque la croyance en un moi s'effondre, généralement, il y a beaucoup plus de légèreté, tout devient beaucoup plus facilement amusant. Mais même être collé, même si on est collé, c'est... Ah tiens, c'est collé. Et alors, quoi, c'est pas un drame.
Et est-ce que ça s'ennuie? Est-ce que ça déteste?
Non. Tout peut apparaître. Mais l'ennui est vu pour ce qu'il est, c'est-à-dire c'est juste une pensée. En réalité, dès qu'on regarde ce qui se passe dans le corps, ce qu'on étiquette ennui, il y a des sensations dans le corps. On s'en arrête de s'ennuyer immédiatement. Ceci dit, l'ennui, moi je ne l'ai plus connu depuis. Mais je ne dis pas que ça ne pourrait pas apparaître chez d'autres. J'avais déjà beaucoup regardé l'ennui avant. Donc si tu veux, je m'étais déjà défait de ça. Et l'autre, tu disais, d'ennuyer.
Ça peut être, on peut prendre tout.
Détester.
Ça aime, en fait. Hein. Est-ce que ça se déteste aussi, en fait? Est-ce que c'est vu? On voit l'amour, ok. Est-ce qu'on voit aussi le...
Détester, c'est vraiment très fort.
Oui.
Ça continue à avoir des préférences qui sont amusantes, mais détester, c'est vraiment fort. Je n'ai pas souvenir d'avoir détesté quoi que ce soit depuis.
Ça revendique pas, au moins.
Revendiquer quoi?
Revendiquer.
Hein. Si. Ça aime revendiquer. Mm. Surtout quand on est français. Un français qui râle pas, c'est pas un français.
C'est du sud.
Donc, enfin, revendiquer, c'est un grand mot, revendiquer, mais ça peut critiquer, ça peut estimer que ça, c'est pas bien, que c'est pas juste, qu'on ferait mieux faire comme ça, et en même temps que ça dit tout ça, ça sait que c'est des conneries. Ça le dit quand même. Et ça rigole ou pas, c'est pareil, parce que de toute façon, on en est libre, c'est-à-dire que, tu vois. Pour prendre un exemple très concret, j'estime qu'ils exagèrent avec leur radar et leur façon de nous sanctionner pour la vitesse. 60, la dernière fois que je me suis fait prendre, c'était il y a plusieurs années. Hein. En plus, c'était à une entrée d'autoroute, 71 au lieu de 76, ramené à 71 ou 70. Ça me chauffe, ça, tu vois. Mais quand je le dis, ça me fait marrer. En fait, tu vois, c'est juste des trucs comme ça qui viennent, qui sont encore des conditionnements, qui sont encore des trucs qui sont aussi une vision de. Il faudrait peut-être arrêter. Il y a aussi une clarté dans tout ça que. C'est contrôlé par le mental, c'est volonté de puissance sur la vitesse des autres, tu vois, il y a quelque chose de complètement fou, quoi. Donc ça dénonce ça aussi. Il y a des choses qui sont dénoncées en termes de folie du mental. Mais alors, après, en fait, en réalité, j'en ai rien à foutre. Et
puis ça prend le train, ça se
prend. Ah ouais, ouais. Ouais, encore que, si ça passe des choses en train. La semaine dernière, en venant de Paris, ils nous ont annoncé qu'ils allaient nous arrêter à Aix-en-Provence à cause des inondations dans le sud. Ah, qu'est-ce qu'on fait une fois à Aix? Ça fait rire. Ça.
Comment tu situes le mot contemplation par rapport à l'être pied? Est-ce que c'est pas un peu la même chose ou est-ce que c'est différent?
Wow.
Il y a ce regard.
On pourrait dire je suis la contemplation, comme on dit je suis la vie, l'amour, la paix, etc. Je suis contemplation. Qui fait l'expérience de la contemplation ou non? Je n'attribue pas une qualité spécifique à ce qui est et en exclue une autre.
Mais subtilement l'action de contempler, est-ce qu'il n'y a pas ce regard qu'on retrouve dans l'être-té dont tu parles?
Mais la contemplation est être-té, est regard, on pourrait dire.
Donc en fait, être dans l'être, est-ce qu'il faut quelque part. Tu dis qu'il ne faut rien faire, mais il y a quand même subtilement quelque chose à faire si on veut essayer d'être un peu différent. Parce que si on vient ici, c'est aussi parce qu'on veut.
Je n'ai jamais dit qu'il ne faut rien faire. Celui qui m'a entendu dire ça, au piqué.
Comment ?
Je n'ai jamais dit qu'il ne faut rien faire.
Ouais, donc, dans l'attitude, c'est un peu difficile de s'exprimer. Parce que
ah ouais, tout mon poids est rempli.
Dans l'attitude à adopter entre.
Est-ce que j'ai dit qu'il y avait une attitude à adopter moi?
J'essaie de.
Ça n'arrivera pas.
Je me dis quelque part, j'ai envie de partir avec quelque chose après, on va partir d'ici, avec quelque chose que.
Alors, pas avec de la délicatesse, de l'amour, de la tendresse, de la douceur pour toi-même. Arrête de prendre le chou.
On le connaît depuis longtemps.
Oui, mais moi, ça, depuis hier soir, ça me suffit. J'ai compris.
Je suis pas le seul à prendre le chou.
Non, c'est pas une critique. Hein.
J'arrive pas à exprimer. J'aimerais pouvoir essayer de.
Je sais très bien ce que tu veux essayer de dire.
Dans mon processus intérieur ou extérieur, oui. Pas d'intérieur ou d'extérieur, et dans ce processus, on se fait piéger. Et oui. La dame tout à l'heure, elle se fait piéger aussi, et moi je me retrouve très bien aussi dans tout ce que tu dis. J'ai l'impression qu'on se fait piéger parce que, quelque part, on sait. Être. Parce que, de toute façon, ça se fait, mais on passe par des étapes. Et il y a un moment qui est parfait. Le problème, c'est que on en fait autre chose. Donc on passe par une étape où on est conscient, où on est, et après ça dégénère. Et je pense que ça, il faut voir à l'intérieur ce qui se passe. À quel moment ça dégénère ? Pas forcément, pas seulement.
Sauf que tu peux pas. Si tu avais le pouvoir de voir à quel moment ça dégénère et d'arrêter que ça dégénère, il y a longtemps que ce serait fait.
Je peux le faire, mais ici, parce qu'on a moins
de... Ici, parce qu'il y a un rappel constant, parce que j'arrête pas de marteler des trucs.
Mais ce matin, j'étais devant mon miroir, en train de me raser, quand on m'appelle, et je me suis rappelé ce qu'on a fait hier soir. Et j'ai essayé d'être. J'ai essayé de m'observer.
Oui.
J'étais plus dans l'action, mais ça crée une espèce de mouvement intérieur. Je fais mon truc, et puis, un peu comme tout paraissait bizarre, parce qu'on soit bougé, on sait plus vraiment qui on est. Quoi. Et ça me donne la sensation qu'il y a quand même un travail à faire quotidiennement pour lâcher nos habitudes.
Bon, d'accord, t'as gagné. C'est vrai qu'avec toi, j'ai sans cesse tendance à te dire stop, 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 tu vois. Maintenant, je vais te dire autre chose. Ce qu'il faut retenir de ce que je dis, c'est qu'il n'y a pas un moi qui fait ou qui ne fait pas. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire. Évidemment, on pourrait dire qu'il y a une pratique. Sauf que c'est une pratique de la non-pratique, une pratique agie par personne. C'est-à-dire que ça, c'est pour ça que je te parle d'amour, de tendresse, de délicatesse vis-à-vis de toi-même. Parce que après, ça va être, dès qu'on dit quelque chose, ça va être récupéré par le mental pour en faire une stratégie. Ah, j'ai compris, je vais faire comme ça et après, ça va me mener à l'éveil. Grâce à ça, je vais obtenir l'éveil. Et ce jeu qui va obtenir l'éveil, il est fallacieux, il n'y en a pas. Donc on va droit dans le mur. Et on ne peut pas dire qu'il ne faut rien faire. Je ne dirai jamais ça. Une hérésie. Il se trouve que les corps-organismes qui orientent le regard vers le regard, qui orientent le regard vers les phénomènes, statistiquement, semble-t-il, ont plus de chances de réaliser l'absence de moi que ceux qui ne le font pas. Et encore, quand je dis, tu vois, c'est ce que je dis est une trahison complète de la chose. On ne peut pas le dire comme ça. Alors, on peut parler de pratique, mais n'en fais pas une stratégie, ne la récupère pas au profit d'un moi illusoire. Tu vois ? Et la pratique, c'est revenir au regard, revenir à l'être-té, à je suis. C'est regarder qu'est-ce qui est vrai, en réalité, de façon définitive. C'est dévoiler les pensées crues derrière les phénomènes existentiels. Le regarder de près, voir qu'elles sont fausses. Et bien sûr, regarder l'idée d'un moi. Est-ce qu'il y en a un ? Est-ce qu'il n'y en a pas ? Et jusqu'à ce que ce soit vu, puis réaliser qu'il n'y en a pas. Tant qu'il n'y a pas réalisation, l'investigation, entre guillemets, est nécessaire. Mais elle est menée par personne. C'est cet apparent paradoxe. On pourrait dire aussi que depuis la plus petite enfance, on nous a conditionné à croire dans certaines pensées, à agir d'une certaine manière, qui nous éloigne apparemment de ce que l'on est, de notre nature véritable. Et il n'y a pas que ça. Il y a l'attirance pour les phénomènes aussi, tout simplement. On est attiré par les phénomènes existentiels, et on va se coller contre. On aime certaines sensations, certaines émotions, hein, comme tomber amoureux pour beaucoup, etc. Et tout ça, c'est très attirant. Et du coup, c'est comme si on s'éloignait de ce qu'on est. En réalité, on ne peut pas s'éloigner de ce qu'on est. On ne peut pas ne pas être ce qu'on est. Et donc, c'est comme s'il y avait un conditionnement, un réveil à effectuer, tu vois. Mais reviens à ce que tu es, mais reviens à ce que tu es, mais reviens à ce que tu es. Tu vois, à force de te bassiner avec ça, tu vas finir par le faire.
J'ai noté effectivement qu'il y a cette histoire de revenir au regard et d'une prochaine stratégie, et en même temps il y a aussi le constat qu'il n'y a personne qui regarde. Et c'est cette prise de conscience-là qui est l'étape, je dirais, qui. J'ai l'impression quand même qu'il y a quelque chose qui arrive à être dans le regard, mais. Pas tout à fait détaché du moi. Il y a bien une part de moi qui arrive à. C'est comme si j'étais l'observateur que qu'il se passe des choses quand je bouge mes mains, que je sens l'espace autour de moi, qui est au-delà du corps, que physique. Il n'y a encore pas la distanciation de l'observateur qui regarde.
Mais pourquoi vouloir le distancier ?
Il n'y a personne qui regarde. J'ai l'intime conviction qu'il n'y a personne qui regarde, mais je n'ai encore pas la perception de ça.
Mais dire qu'il n'y a personne qui regarde, c'est trop. Il y a regard. Mais pourquoi vouloir te distancier ?
Parce que. Il y a peut-être encore cette confusion entre. S'il y a regard, il y a jeu.
S'il y a regard, il y a jeu.
Il y a une personnalité, il y a une identification.
C'est une idée. Est-ce qu'elle est vraie ? Bon, quand je dis regard, on peut entendre écoute, on peut mettre écoute, on peut dire constater,
oui.
On peut dire autre chose. Hein.
Oui.
Mais est-ce qu'elle est vraie tout ?
Il y a quelque chose qui perturbait. Adi Ashanti faisait bien la distinction entre l'observateur qui regarde et c'était se détacher de l'observateur.
Voilà. L'observateur du regard et quoi ?
Et, c'est comme s'il y avait eu deux. Il y a le fait d'être dans l'idée de revenir au regard. Mais de ne pas s'attacher à qui regarde, ou quoi regarde, qu'est-ce qui regarde.
C'est-à-dire que ce que souligne Adi Ashanti, c'est que certaines personnes se prennent pour l'observateur, et je suis un observateur de ce qui arrive. C'est ça qu'il souligne. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont y mettre un moi. J'observe, je suis le témoin. Et c'est ça qu'il a dénoncé à Adi Ashanti. C'est pas le regard tel que j'en parle là. C'est l'appropriation du regard par l'idée d'un moi.
Ouais, c'est ça.
Tu vois ? Et c'est pas la même chose.
Ça crée une petite confusion.
Oui, mais il en parle clairement. En fait. Il en parle clairement à Adi Ashanti de ça. Et évidemment que l'observateur. Mais c'est spécifique aussi aux États-Unis. On rencontre moins ça en France qu'aux États-Unis. En France, en États-Unis, je l'ai beaucoup vu faire ça. Les gens, ils viennent à s'identifier, c'est pour ça qu'il le souligne, Ali Vachante, ils viennent à s'identifier au témoin, tu vois, je suis la conscience témoin,
d'accord.
Tu vois, avec un grand jeu, tu vois. Non, ça, là, c'est assez fallacieux, et c'est ça qu'il a dénoncé. Donc, peut-être que moi, je l'ai lu, entendu et compris, je l'ai rencontré à Diachanti. Et il a tout à fait raison, et pour moi, c'est l'un des meilleurs enseignants en tant qu'enseignement de la chose. Il est précieux sur plein de choses, il a une vision assez large, très large, beaucoup. Mais il parle aussi de alors, je ne sais plus quel mot il emploie, mais de l'être-té ou du je suis, ou de je ne sais pas comment à quel mot il prend. Et il le distingue effectivement de cet observateur témoin que je suis, que je serai, tu vois, évidemment. Parce que c'est du style, oui, j'ai bien vu que tu avais fait ça, mais je suis en train de témoigner quand je te dis ça. Ça, c'est de cet observateur-là dont il parle, qui est complètement identifié à toi, il y a complètement l'idée d'un moi là-dedans.
C'est à travers ce que j'ai exprimé d'une manière confuse, c'était une peur de tomber là-dedans.
Voilà.
Voilà, je viens de
voir. Tu vois bien que si tu reviens à l'espace et que tu habites l'espace et que tu sens comme si tu étais l'espace au sein duquel tout apparaît, que si tu vois que les choses, que tout ce qui apparaît, si tu réalises que tout ce qui apparaît est constaté, il n'y a pas l'idée d'un moi. C'est différent.
Je viens de polluer quelque chose qui n'était pas vraiment présent.
Et attention, parce que selon la culture, ça change. Hein, on va tous parler différemment en fonction de la culture dans laquelle on vit et qu'on connaît le mieux.
Toi, tu parles pas du témoin. Si on parle du regard,
je m'en fiche des mots. La question, c'est qu'est-ce que ça recouvre. Si c'est un témoin identifié, qui s'est sorti l'idée d'un jeu, ça m'intéresse pas. C'est rien, quoi.
Et si on ressent encore en soi ce moi,
où est-ce que tu le ressens encore? La réponse sera toujours la même, le regard.
C'est la présence. Je le ressens pas spécialement dans le corps.
Tu me dis je ressens un moi.
T'as
bien dit je ressens un moi.
Mais c'est pas une voix particulière, mais c'est une voix.
Donc il y a une sensation globale. Faite de quoi? Très concrètement.
Le physique.
Bon, on va dire qu'il y a une sensation globale. Reste avec cette sensation globale. Est-ce que cette sensation s'étiquette elle-même, moi?
En fait, c'est soit j'y pense, soit j'y pense pas. Si j'y pense pas, il n'y a pas de problème.
Donc quand j'y pense pas, il n'y a pas de moi, et quand j'y pense, il y a un moi. Ouais. Donc le moi vient de penser. Cru.
C'est une pensée crue. Et comment je me libère cette pensée crue?
Arrête d'y croire. Qu'est-ce qui prouve qu'elle est vraie? C'est pour ça, reviens à la sensation. Reviens à la sensation globale. À chaque fois, tu fous le camp. C'est incroyable, Yves. À chaque fois, tu fous le camp. Reviens à la sensation globale.
Je sais qu'il y en a qui me prouvent que c'est vrai, mais en même temps. Si je viens le regarder,
vous êtes d'accord qu'il fout le camp, c'est moi? Reviens à la sensation globale. Est-ce qu'elle s'étiquette elle-même moi?
Non.
Non. Est-ce qu'elle prouve l'existence d'un moi?
Non.
Non. Pourquoi l'étiqueter moi?
Parce que par moment, il y a cette dualité entre moi et les autres, dans le quotidien, dans les échanges.
Ça n'a rien à voir avec la sensation globale dont tu me parles.
Et ça me ramène à ce moi.
Non. Ça ne te ramène pas à cette sensation globale. Ça, c'est pas vrai. quand tu te sens séparé des autres, tu n'es pas dans cette sensation globale. C'est pas la même. Tu fais pas la différence. Quand tu te sens séparé des autres, tu as peut-être aussi une sensation globale. Mais est-ce que c'est la même que celle-ci dont tu viens de nous parler ? Exactement la même ?
Dans l'identification au plus solide.
Qu'est-ce qui te fait dire que c'est identifié de façon plus solide ? Comment tu sais ça ?
J'ai une sensation d'être séparé, quoi.
Tu as une sensation d'être séparé qui se manifeste où dans le corps ?
Au ressenti, ici.
Voilà. Et ça n'a rien à voir avec la sensation globale dont tu me parlais tout à l'heure.
Il y a quelque chose qui est plus. C'est soit du domaine du ressenti, soit du domaine de l'intellect, j'ai l'impression.
Oui, et ça se rejoint à un moment donné. Oui, oui, c'est-à-dire qu'il y a une sensation qui est crue, enfin qui. Tout est lié, hein, je veux dire. Il y a une pensée qui est crue, qui entraîne une sensation, il y a une sensation qui crée, enfin qui rappelle une pensée qui est crue, enfin, etc. C'est peu importe dans quel sens ça tourne.
Que ce soit du domaine du mental, soit du domaine du corporel.
Oui.
Et des sensations.
Oui. Ça se rejoint.
Et je suis toujours dans ce bazar, quoi.
Oui.
Essayer de savoir.
Mais à nouveau, le sentiment d'être séparé. Est-ce qu'il prouve l'existence d'un moi ?
Ça ressemble. C'est parce que j'ai cette sensation d'être séparé que j'ai cette identification à moi. Ça se fait ensemble.
Mais c'est deux choses séparées. C'est deux choses différentes. L'idée de séparation et l'idée d'un moi sont deux pensées différentes qui viennent s'associer. Mais est-ce que l'une justifie l'autre ? Est-ce que les pensées se prouvent l'une l'autre, prouvent l'une l'autre leur vérité ? Ça se dit ça ? J'espère que c'est compréhensible ce que je dis, parce que du moment, je ne sais plus.
Ce qui est embêtant, c'est par exemple, voilà, la session va s'arrêter, je vais me lever, je vais bouger, et du coup, ça crée cette sensation de moi, d'être séparé. Je n'arrive pas à me libérer de ce truc.
N'essaye même pas. Bon. N'essaye pas de t'en libérer, épouse-le.
Hier, je suis parti, j'étais dans ce qu'on disait la voiture, et puis je me disais, du point de vue de l'être dit, en fait, c'est bizarre, quoi. La voiture, elle est en train d'être tirée.
Tu te prends trop le shooter. N'essaye pas. N'essaye pas d'enlever quoi que ce soit. Épouse-le. Le regarde. L'espace ne rejette rien. Même les actes les plus horribles arrivent au sein de l'espace. L'espace ne rejette rien.
Il est envie de comprendre, d'être clair.
Ok.
D'être sûr, de certitude. Voilà.
Oui. Donc, quand tu te lèves et que tu as l'impression d'un moi qui apparaît et qui se solidifie, n'essaye pas de l'anéantir. Regarde de quoi c'est fait. C'est pas la même chose. Qu'est-ce qui te fait dire à ce moment-là que ça se solidifie, qu'il y a réellement un moi ? C'est quoi, tu vois, il y a une sensation, tu dis. Mais est-ce que cette sensation prouve l'existence d'un moi ? Ah ben non.
En fait, c'est difficile d'être clair par rapport à ça, quoi. Quand ça se manifeste, c'est vrai qu'il y a ce regard, il y a des sensations, il y a des pensées, il y a ça ne vous paraît pas clair par rapport à... avoir la certitude qu'il n'y a pas de moi.
Mais tu n'y arriveras jamais, n'essaye même pas. Laisse le regard faire son œuvre. À un moment donné, ça va se révéler. Arrête d'essayer, tu fais beaucoup trop d'efforts. Fais confiance au regard, à ce que tu es. Aimez-vous là-dedans, c'est comme un enfant qui apprend à marcher. De toute façon, à moins d'un handicap grave, tous les enfants marcheront un jour. C'est pas la peine de s'inquiéter, quoi. Et tous les humains réaliseront un jour qu'il n'y a pas de moi. C'est pas la peine de s'inquiéter, c'est dans notre nature. Donc c'est pas la peine de courir après, c'est pas la peine de vouloir à tout prix, je sais pas quoi. Détendez-vous, ce sera beaucoup plus facile, beaucoup plus agréable, et ça viendra beaucoup plus vite. Tu vois ? Imagine un gosse qui veuille tout de suite savoir faire du vélo alors qu'il a 6 mois. C'est de la folie, quoi. Il va grandir naturellement, il va apprendre à se mettre debout, puis à marcher, puis à courir, puis à faire du vélo. Ça va se faire, tu vois ce que je veux dire. Et c'est pareil. Mais si tu commences à vouloir brusquer les choses, fais faire des maths à un gamin d'un an, quoi. C'est pas la peine. Et tu fais comme ça avec toi. Tu te forces. Bon, c'est des mauvaises comparaisons parce que toi, c'est juste mental. Tu te forces avec le mental à vouloir voir quelque chose que le mental ne peut pas voir. Ça ne peut pas fonctionner. Le mental n'a jamais rien vu. La pensée n'a jamais rien vu. Le mental, c'est quoi? C'est juste un ensemble de pensées. Les pensées n'ont jamais rien vu. Le regard est sans pensée. Quand je dis regarde, ça ne renvoie pas au mental. Quand je pose une question, ça ne renvoie pas au mental. Ça renvoie au regard en tant que regard. Ça renvoie à l'écoute en tant qu'écoute. Ça renvoie à ce qui est en tant que ce qui est. Ça renvoie au cœur. Et les questions, elles sont à déposer dans le cœur. Pas à se poser dans la tête, à déposer dans le cœur. C'est pour ça que je dis sois doux, sois tendre, sois aimant. Fais preuve de douceur, d'amour, de tendresse, de délicatesse avec toi-même. C'est dans le cœur. Détends-toi. Tu es dans la situation de quelqu'un qui veut manger une pomme avec plaisir alors qu'il n'a pas envie de manger une pomme. Tu ne peux pas y arriver. Et quand tu as envie de manger une pomme, eh ben ça te fait plaisir. Ça se fait de soi-même au moment où c'est juste, tu vois, au moment où ça apparaît. Mais si tu veux absolument manger une pomme avec plaisir et que tu bouffes les pommes les unes derrière les autres, tu n'auras jamais de plaisir à manger une pomme. Tu vas juste te dégoûter des pommes. Et ça n'arrivera jamais. Fais confiance. Tu laisses des pommes autour de toi et un jour tu auras envie d'en manger une. Et ce jour-là, tu auras du plaisir à la manger. Et d'ici là, laisse donc les pommes où elles sont. T'en occupe pas, ça va se faire de soi-même. Comme un enfant qui apprend à marcher. Un jour, il a envie de se mettre debout. Et en plus, quand un enfant qui apprend à marcher tombe, on ne lui dit pas « sale gosse » et tu ne lui tournes pas deux claques en lui disant « tâche pas de recommencer ». Parce que ça n'aurait aucun sens. Tu lui dis « allez, recommence, tu vas y arriver ». Tu vois ? Cet amour-là. Et quand je dis recommence, ça veut dire reviens au regard. Avec amour, délicatesse, tendresse. Reviens doucement. Tu connais la définition du saint? Et ça y a été. C'est celui qui s'est relevé une fois de plus qu'il n'est tombé. Un jour, ça se fait. Tu vois? Mais sans forcer, sans vouloir à tout prix, c'est trop d'efforts, c'est trop de tension, c'est trop de torture. Tu crées ton enfer en faisant ça, tu ne crées pas la paix que tu cherches. Tu le vois bien que c'est contre-productif à l'instant même.
Tiens, moi j'avais pas envie de manger de pommes ce matin particulièrement, mais je m'en délecte maintenant. Et France m'a dit, tiens, il y a Gérard, déjà, ça va. Ouais. Et d'abord j'ai pensé à ce que j'ai connu Gérard.
Ah oui.
Et puis voilà, j'ai entendu ce matin le regard qui regarde le regard.
Ouais.
Pardon. Je vais te remercier.
Ah, ça te parle aussi, je suis content. Parce que...
Ouais, en tout cas. Voilà, ça m'a rempli pour le chemin.
Oui.
Merci.
Alors, va un petit peu au-delà de ça. Après, tu vois, goûte. Et après, regarde. Même le regard est constaté, même le regard est connu. Même le regard est connu. Qu'est-ce qui le connaît ?